nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Mais, au bout d'un moment, tu voulus prendre ta douche. Je restais seul dans le salon. Et puis, au bout d'un moment, tu m'appelas. Et, instinctivement, j'allais vers toi. Et je suis arrivé vers la salle de bain. La porte était ouverte. Je t'ai vu dans la baignoire, debout, nu. Je fus surpris et eu un geste de recul. Tu me dis, non. Pour nous deux, ça n'a pas d'importance. Viens. Tiens. Lave-moi les cheveux. Je m'approchais. Tu étais là, dans la baignoire, nue, belle. Et tout se passa comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Plus rien n'était réel. Absolument plus rien n'était réel. Ma tête était vide. Je me dis que je n'aurais jamais lavé les cheveux à personne. Tu me dis, prends-moi la main. Tu m'as pris la main et tu m'as guidé. Tes cheveux doux, délicats, j'avais l'impression d'avoir entre mes mains quelque chose d'irréel. Ensuite, tu m'as dit de prendre le savon, de te savonner. Attends. Avant, déshabille-toi. Après, je te laverai. Tu dis cela sans le moindre trouble. Ton visage était resté calme. J'obéis. Je touchais ton corps, ce corps si beau, si délicat. Je n'avais aucune envie, aucun besoin. Je faisais quelque chose de sacré. J'aurais aimé que le temps s'arrêtât, qu'il n'y ait plus ni avenir ni passé. Ensuite, tu me lavas. Cette main qui passait sur mon corps me mit le sang à la tête. Je n'y voyais plus rien. Tu étais toujours aussi calme. Et tout d'un coup, il se passa ce qui devait se passer. Ce fut brusque et terrible. Après, nous étions gênés. Quelque chose de précieux que nous avions, d'irréparable, venait de se passer. Je t'en voulais. J'étais affreusement triste d'avoir perdu la pureté et notre amitié que renfermait notre amour. Ne dis-moi rien. Nous allions chacun dans notre chambre. Je ne te vis que pour le repas. Tu étais calme. Moi, je ne savais plus. Le lendemain, tu voulais que je t'accompagne dans ta promenade. Dans ta promenade, tu me dis que tu m'aimais, que tu ne voulais pas quitter ton mari. Et vous pouvez m'aimer si vous voulez, mais d'une façon platonique. Ce qui s'est passé hier, ce n'était qu'une faiblesse, un rêve. J'en ai ressenti une grande joie, vous aussi, mais nous ne pouvons pas. Il ne faut rien gâcher, cela nous fera un beau souvenir. Je lui promis un amour pur et fort qui durera jusqu'à la fin des temps. Tu me dis, je serai toujours auprès de vous, mais en pensée seulement. Seulement en pensée, car il ne faut plus nous revoir. Écrivez-moi si vous le voulez. après-midi, tu es partie avec ton mari. Alors, je passais mes journées à faire, à refaire, sans arrêt les promenades que nous avions fait ensemble. Je restais des heures assis auprès du ruisseau, dans la cabane du bûcheron. Le soir, je t'écrivais des lettres, des pages et des pages que je n'osais pas t'envoyer. Après plusieurs essais, je t'en envoyais une, la plus banale qui soit, que j'avais écrite. Je ne parlais que du temps, de la vie paysanne et du regret de nos promenades. Cette lettre était adressée à toi et à ton mari. Je ne reçus pas de réponse. Alors j'en envoyais une deuxième, une troisième, une lettre par jour. Plus j'écrivais et plus je te parlais de mes sentiments pour toi, de la façon la plus hardie. Je n'envoyais plus mes lettres à toi et à ton mari, mais seulement à toi. Et puis, un jour, une lettre pour me dire de ne plus m'écrire. Ton mari avait des soupçons. Alors je me dis que si je ne pouvais plus t'écrire, il fallait que je te revoie. Tu me dis que non. Un immense désert passa devant moi. Tu compris combien je t'aimais, je tenais à toi. J'étais incapable de vivre sans toi. Chose horrible, moi qui t'aimais plus que tout au monde, moi qui aurais sacrifié ma vie pour toi, au lieu de te vouloir en vie et de ne pas pouvoir te voir, je préférais te savoir morte. Je ne faisais plus rien. Je passais mes journées dans ma chambre. J'avais complètement oublié ma sœur. Ma sœur que j'aimais tant. Elle avait compris qu'il fallait me laisser seule, ne pas me déranger. Ma sœur m'aimait tendrement et souffrait lorsque je souffrais. Son bonheur, c'était mon bonheur. Les jours passaient, passaient, et un matin, je me suis levé et est parti dans les bois. J'avais pas mangé depuis la veille, tout tournait autour de moi, mes jambes me tenaient à peine. J'avais de la peine à me porter. Arrivé au pied d'un ravin, je me suis réveillé, allongé sur un brancard. Oh, cette douleur à la jambe! Dans ma main se trouvait la main de ma sœur. 3 mois plus tard, la vie reprit son cours normal. Ma sœur ne me parlait de rien et d'une façon discrète m'aidait à reprendre goût à la vie. Je gardais mon amour au fond de mon corps. Je me remis à mon travail, à la vie, mais les nuits. Un jour, je reçus une lettre de toi. Tu me demandais d'aller te rejoindre au lac de Montrion et que nous pourrions y passer la fin de la semaine ensemble. Tu me donnas l'adresse de l'hôtel. Je devins fou de joie et de rage. J'en étais malade. Je décidais de partir le jour même au lac de Montrion, 2 jours avant toi. Arrivé là-bas, je pris une chambre d'hôtel avant à l'hôtel que tu m'avais indiqué. En t'attendant, je passais mes journées à me promener. Je rencontrais 2 hommes, 1, D2, était grand et maigre, et l'autre plus petit. C'était deux jeunes hommes. Ils semblaient toujours en grande discussion. Un soir, après souper, je fus le tour du lac. Il faisait déjà nuit. J'avais une lampe à la main. Je les rencontrais. Ils étaient assis sur des troncs d'arbres coupés au bord du lac. Je ne sais pourquoi cette rencontre me donna la chair de poule. Enfin, tu arrivas. J'étais très ému de te revoir. Comme ça. Toi aussi. Tu avais les traits tirés. Tu semblais lasse de tristesse. Tu me dis. Moi aussi j'ai compris que je ne pouvais plus vivre sans toi. Je t'aime. Voilà. Lorsque j'ai compris, je suis heureux de te revoir à la première occasion. Mon mari est parti 2 jours pour ses affaires. Voilà. Je suis là. Comme tu avais l'air triste et fragile, tu ressemblais à un petit oiseau tremblant de froid dans la neige. Je te prépare la main et nous avons décidé de tout oublier. La journée fut merveilleuse. Nous marchions main dans la main. À l'hôtel, on nous prenait pour des jeunes mariés. Tous les deux 19 ans. Deux vieillards, un grand maigre et un gros plus petit me regardaient avec attendrissement. Le lendemain, au fil des heures, devions plus nerveux, inquiets. Nous nous dîmes que nous ne pouvions plus nous passer l'un de l'autre. Nous voyons le monde devenir un enfer pour nous. Nous décidâmes de nous donner la mort. Le soir, après souper, nous sommes partis vers le lac. Est-ce que tu crois, Marc, qu'ils sont encore en vie? Je sais pas, Jean-Pierre. En tout cas, pour ce qui est de la jeune fille, quant au jeune homme, j'entends son corps battre. Tout de même, avant de se jeter à l'eau, se mettre une balle au corps. Heureusement que nous pouvions encore nager. Mais pourquoi est-ce que j'écris tout ceci? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Mon amour, ma bien-aimée. Mon étoile, ma lumière. Je veux te revoir, je t'aime. Je t'en supplie, je veux te revoir, je veux te revoir. Didier prit les feuilles qu'il venait d'écrire. Et, d'un geste là, les déchira en quatre. Nadine était une fille pure et ne connaissait de la vie que par l'intermédiaire de son frère. Jusqu'à présent, sa vie s'était déroulée autour de son frère, ce frère qu'elle aimait d'un amour quasiment religieux. Aucun voile, jusqu'à présent, n'avait troublé son amour pour Didier. Sauf une aventure qu'elle n'avait pas bien compris. Un jour, un ami de la famille était venu les voir. Il venait de se marier. Il était venu avec sa femme passer des vacances au château. Il avait 37 ans et sa femme 18. Il était d'humeur volage. C'était pour cette raison qu'il n'avait pas pu se marier avant 37 ans. Dès le premier jour, il fit la cour à Nadine. Elle en fut surprise, intriguée, et succomba au charme. C'était la première fois qu'on lui faisait la cour. Chaque matin, il l'accompagnait en promenade dans les forêts, les alpages. Au cours de ces longues promenades, il parlait beaucoup du monde de la vie parisienne, de l'art. Il avait lu un livre à la mode qui s'appelait « Le lac de Montrion ». Cette lecture l'avait beaucoup frappé et Nadine aimait l'entendre parler. Tout ce qu'il disait la sortait de son monde trop fermé et l'emmenait dans un monde plein de mystères, de joie qu'elle était, qu'elle ne pouvait pas soupçonner. Le monsieur restait correct, poli et serviable avec Nadine. Lorsque, pour se reposer, il s'asseyait dans l'herbe, il respectait toujours une distance entre lui et la jeune fille. Nadine et le monsieur, sans savoir pourquoi, s'aimaient. Ils ne se le disaient pas, mais ils savaient qu'ils ressentaient ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Un jour, Nadine osa dire « Nous sommes amis, n'est-ce pas ?» Il y eut aussi quelques soupirs, certains regards et poignées de main. Mais est-ce tout ? Le jour où ils étaient pris par l'orage dans la cabane du bûcheron, le matin où ils étaient seuls, le moment des adieux arriva, il fut triste. Le monsieur a eu la permission d'écrire. durant tous ces jours qu'il avait, lui et sa femme, fait au château, Didier était sombre, nerveux. Il épiait sa sœur d'un regard noir et soupçonneux. Pourtant, il n'avait rien à reprocher à sa sœur. Elle l'entourait d'une affection et l'aidait autant qu'avant. Lorsque les invités furent partis, il devint plus attendrissant et plus tendre pour sa sœur. Mais un jour, les lettres, un rendez-vous au lac de Montrion. Au lac de Montrion, deux coups de feu, Nadine continua à aimer son frère tendrement, son frère aussi, mais depuis cette heure, elle se sentait troublée. Elle avait besoin d'autre chose que de l'amour fraternel, car ses sens s'étaient éveillés. Nadine, Marc et Florent étaient assis au salon et les remerciaient de n'avoir rien dit sur la lettre. Elle leur avait expliqué, parce qu'elle avait vu un article dans le journal, il traitait sur les affaires de leur père. Cela lui avait donné l'idée de leur écrire, mais elle le fit en cachette de son frère. Les jours passaient calmement et tranquillement. Florent aidait Didier dans la gestion de ses terres. Oui, car Didier travaillait énormément. Il avait beaucoup de choses à faire depuis la mort de son père. Il avait arrêté ses études et s'occupait des affaires familiales qui étaient en très mauvais état. Donc Florent l'aidait. Il aidait Didier, cela le changeait d'être auprès d'une personne calme ou et qui s'occupait de choses plus ou moins terre à terre. Nadine s'était accaparée de Marc. Elle voulait qu'il l'accompagne dans ses promenades, qu'il aidât dans ses comptes et dans le rangement de la maison. Nadine trouvait charmant Marc, quoique un peu sinistre et froid. Durant leur promenade, elle parlait constamment. Elle avait tellement peur de l'ennuyer. Marc était agacé plus que flatté par le trouble qu'il avait involontairement provoqué chez la jeune fille. Nadine, de jour en jour, se mit à aimer Marc, mais elle ne le savait pas. Elle croyait ressentir une profonde amitié pour ce personnage cynique et froid. Un soir, ils étaient Il était tard, très tard. Didier et Florent jouaient aux dames dans un coin du salon, près de la cheminée, qui, où pétillait un bon feu, allongé à terre sur une peau de bête, la tête sur ses épaules, Marc était endormi. Nadine, qui était assise sur un fauteuil en face de Marc, le vit. Elle fut émue jusqu'aux larmes. Les traits du visage de Marc étaient détendus, ce qui le rendait encore plus pur. En le voyant dormir, Nadine eut l'impression de voir un petit enfant sans défense, fragile et délicat. Elle fut troublée par ses lèvres entr'ouvertes, ce qui le rendait encore plus innocent. Elle eut envie de le prendre dans ses bras et de le bercer tout en le caressant, en caressant son visage. Ses cheveux défaits sur sa tempe montraient ses oreilles petites et délicates. Sa chemise était déboutonnée, ce qui permettait de voir, ou plutôt d'entrevoir, une poitrine blanche et lisse, avec quelques rares poils. Tout ceci émut et troubla énormément Nadine. Elle comprit qu'elle aimait Marc. La partie de dame était finie depuis quelque temps. Didier regardait Nadine. Il était devant elle, debout, avait le regard froid, et Nadine ne le voyait pas. Didier lui dit, d'un ton calme et doux, « Il est tard. » Nadine sursauta, vit son frère et fut troublée. Se leva. Didier, avant qu'elle fît le pas pour aller vers Marc, s'approcha de Marc et le secoua. Nadine et Didier étaient tellement absorbés par leurs pensées qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'après 2 mois de vie en commun, ils ne connaissaient toujours pas leur cousin. Ils ne savaient absolument rien d'eux et ne cherchaient même pas à le savoir. Leurs pensées étaient ailleurs. Nadine, elle était sur Marc, mais pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait pour elle. Pour Didier, ses pensées étaient sur sa sœur. Marc et Florent parlaient très peu. Ils en étaient même impolis et grossiers, car c'était juste s'ils remerciaient lorsqu'on leur donnait ou proposait quelque chose. Le jardinier avait beaucoup d'amitié pour Florent, et chaque fois qu'il le rencontrait, il lui parlait de ses problèmes sans réponse. « Vous savez, monsieur Lucien, l'on dit que les fleuves se jettent dans la mer, mais moi je crois que c'est faux, c'est la mer qui se jette dans les fleuves. L'eau de mer est transformée en nuages, les nuages se transforment en pluie, et en tombant sur terre, ils forment des ruisseaux. » qui se jette dans les fleuves. Donc, la mer se jette dans les fleuves, par l'intermédiaire des nuages. Oui, mais les fleuves se jettent dans la mer. Ah, monsieur Lucien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la mer ou les fleuves? Lequel des deux se jette dans l'autre? J'y arriverai jamais, monsieur Lucien. J'y arriverai pas. Aidez-moi. Je ne suis pas un expert. Comment voulez-vous que je vous aide ? Nadine était de plus en plus amoureuse. Un jour, en promenade, Marc lui prit la main pour l'aider à descendre un talus. Elle en fut émue et eut une sensation étrange. Marc s'en aperçut et eut un sourire haineux. Dans la soirée, Nadine rêva. Deux anges venaient la visiter. L'un était blanc, l'autre noir. Elle ne pouvait pas voir leur visage. Ils tendaient tous les deux les mains vers elle. Tout à coup, elle vit leur visage. L'un était Marc, l'autre Didier, en noir. Nadine souffrait. Elle désirait Marc. Mais elle voyait que Marc ne la désirait pas. Elle l'aimait de plus en plus. Elle était capable de tout pour être à lui et lui à elle. Elle avait toujours en tête ce visage d'enfant endormi. Elle aurait aimé mettre son visage contre sa poitrine. Elle ne s'occupait plus de son frère, mais elle sentait sa présence. Elle avait l'impression qu'il l'épiait. Un soir, après une journée particulièrement chaude, elle n'en pouvait plus. Elle alla s'asseoir auprès de Marc, qui se trouvait sous la véranda. Elle lui dit, ou plutôt d'une façon inconsciente, elle lui dit de venir le rejoindre dans sa chambre à minuit. Elle ne dit rien de plus. Elle avait de la fièvre. Elle voyait les choses comme dans un brouillard. Marc ne lui avait pas répondu. À minuit, tout le monde alla se coucher. Nadine
ne ferma pas la porte de sa chambre. Elle se déshabilla. Et se coucha. Elle avait la tête en feu. S'est ouverte. Marc. Avance dans la pénombre. La lampe de chevet éclaire Naline allongée nue sur les couvertures. Elle ne disait rien. Marc restait debout devant le lit. Il était droit, net. Il dit, je suis venu vous dire, c'est que je ne puis vous aimer. Je ne peux pas vous aimer. Je n'aime pas le genre humain. Je vous déteste tous. Pour moi, vous êtes et tu es de la pourriture, de la moisissure. Vous me dégoûtez. Je te trouve laide, vieille. Je ne supporte pas que tu me touches, que tu me dégoûtes. Je ne supporte pas que tu me parles de ton amour. Je suis l'ennemi de l'amour. Je te déteste. J'aimerais te faire souffrir à petit feu. Qu'as-tu à rester comme ça? Tu me fais honte de montrer ton corps, cette chose ignoble. Tiens, fais-moi plaisir. Crève. Mais crève donc, garce. Tu n'as pas besoin d'un homme pour souiller ton corps. Il est déjà. Hein? Il lui crache à la figure. Sur le corps. Sur le ventre. Et sort. S'habillant, il s'aperçoit qu'il a perdu son mouchoir. Il sort de sa chambre pour aller chercher son mouchoir dans la chambre de Nadine. Frappe. Pas de réponse. Ouvre la porte de la chambre. Il entre. La lampe de chevet est encore éclairée. Sur le lit, au travers du lit, Nadine, nue, pâle, les yeux et la bouche grand ouverte, inanimée. Sur la table de nuit, un verre d'eau à moitié plein et un tube de comprimé. Marc prend le mouchoir qui se trouve à terre. Et sort de la chambre. Il retourne dans sa chambre. Dans sa chambre, il y a Florent. Il lui dit ce qu'il venait de voir. Florent lui demande si c'est à cause de lui. Il lui dit oui. Partons, Marc. Si ton frère le sait, nous sommes perdus. Il va nous tuer, tu sais. Marc lui dit, et alors, qu'il nous tue, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça n'a pas d'importance pour nous. Restons. Une heure plus tard, l'on frappe à une porte. La porte s'ouvre. Oh ! Un cri. Puis, le silence.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.